VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Bonsoir. Au troisième jour du deuil national décrété après le massacre de l'université de Garissa dans l'est du pays, plus de 200 étudiants sont descendus dans les rues de Nairobi ce matin pour dénoncer ce qu'ils appellent l'incapacité du gouvernement à protéger sa population. C'est visiblement un sentiment de colère qui règne aujourd'hui dans le pays. Salwa Jafari.
Une foule en colère, non pas marchant, mais courant à travers les principales artères de Nairobi. La plupart vêtus en noir pour rendre hommage à leurs camarades tombés sous les balles. Mais au-delà de la tristesse, c'est la colère qui animait aujourd'hui le cortège. Les manifestants se sont arrêtés au seuil du bâtiment de la présidence pour se faire entendre. Ils demandent réparation, compensation, une meilleure sécurité sur le campus et ailleurs.
Nous devons mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il soit plus sérieux en ce qui concerne notre sécurité. Nous ne nous sentons plus sûrs.
Les forces de la police sont partout. À chaque fois qu'ils s'approchent des manifestants, la colère monte d'un cran. Où étiez-vous ? Où étiez-vous ? Crie-t-il. La police en tout cas vient d'arrêter un sixième suspect et interroge désormais cinq Kenyans et un Tanzanien. Et pour ne rien laisser échapper, les autorités kenyanes ont même promis une récompense de plus de 200 000 dollars pour la capture de celui qu'elles présentent comme le cerveau de l'attaque, Mohamed Mohamoud, alias Kuno.
Une demi-douzaine de proches de l'ex-président Blaise Compaoré, dont trois anciens ministres, ont été arrêtés au Burkina Faso, alors que les députés burkinabés devaient adopter ce mardi un nouveau code électoral encadrant le scrutin d'octobre. Jérôme Bougouma, ancien ministre de l'Intérieur, et ses collègues Jean-Bertin Ouédraogo aux infrastructures et aux transports et Salif Kabore aux mines ont été arrêtés lundi et mardi, a déclaré à l'AFP Léon Sekone, le chef du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ex-parti présidentiel. Deux sources sécuritaires ont confirmé à l'AFP, sous couvert d'anonymat, ces arrestations sans en préciser les motifs. Léon Sekone avait déjà annoncé mardi matin l'arrestation de Sali Assanou, l'ancien maire et actuel secrétaire général du CDP de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso, et de Seydou Sanou, ex-maire d'arrondissement de cette ville. Au Mali, le Néerlandais libéré hier par l'armée française dans le nord du pays est arrivé aujourd'hui à Bamako. Sajka Richeke, otage d'Al-Qaïda au Maghreb islamique depuis novembre 2011, a recouvré la liberté lundi à l'aube lors d'une opération des forces spéciales de la France près de Tessalit dans l'extrême nord du Mali. Deux soldats tunisiens ont été tués mardi et trois autres blessés dans une embuscade dans la région de Kasserine, une zone d'activité des djihadistes armés dans le centre-ouest du pays, a annoncé la télévision nationale Watania One, citant le ministère de la Défense.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le sénateur républicain du Kentucky, Rand Paul, a officialisé sa candidature à l'investiture républicaine pour la présidentielle américaine de 2016. Rand Paul est ainsi le deuxième à se lancer dans une course qui s'annonce très concurrentielle. « Je suis candidat à la présidentielle pour ramener notre pays au principe de liberté de gouvernement limité », écrit-il sur son site quelques heures avant le discours qui doit marquer le lancement de sa campagne à Louisville dans le Kentucky. Phase décisive dans le procès de Djokhar Tsarnaev, unique accusé dans les attentats du marathon de Boston. Les délibérations du jury ont commencé aujourd'hui. Le verdict de culpabilité est quasi certain. Félix Yepassis Zembrou.
En effet, la culpabilité de Djokhar Tsarnaev ne fait pratiquement aucun doute. Même la défense a reconnu sa participation dans les attentats du 15 avril 2013 qui ont fait 3 morts et plus de 260 blessés. Ce qui est en jeu, c'est la peine encourue par l'accusé. En fait, 17 des 30 chefs d'accusation sont passibles de la peine de mort. Les 12 jurés doivent tout de même décider si le jeune Tsarnaev est coupable ou non de chacun de ces chefs d'accusation. À signaler que la phase du procès consacrée au prononcé de la peine ne débutera qu'après le verdict. Dans son argument final, la défense a fait valoir hier que le cerveau des crimes reprochés à son client était plutôt Tamerlan Tsarnaev, le frère aîné de Djokhar, mort dans un échange de tirs avec la police. Il a fabriqué les bombes et planifié l'attaque, a déclaré l'avocate Judy Clark. Mais durant tout le procès, l'accusation s'est attachée à décrire le jeune Tchétchène, devenu citoyen américain depuis 2012, tout simplement comme un terroriste.
À New York, un quatrième suspect a été inculpé dans l'affaire des résidents arrêtés en février et accusé d'avoir fourni un soutien matériel aux militants du groupe État islamique, Camille Gros-Didier.
Les autorités fédérales et locales ont annoncé lundi qu'un certain Dilkayot Kasimov, 26 ans, a été inculpé par une chambre de mise en accusation, un grand jury, de même que trois autres individus arrêtés en février. Kasimov est accusé d'avoir coopéré avec Abror Habibov pour lever 1 600 $ afin de permettre à un troisième homme, Akror Saidakhmetov, de se rendre en Syrie pour rejoindre l'État islamique. Saidakhmetov a été interpellé à l'aéroport John F. Kennedy de New York alors qu'il tentait de monter à bord d'un vol pour Istanbul en Turquie. Toujours selon les procureurs, une autre enquête a mis à jour des messages électroniques envoyés par Kasimov, exhortant d'autres personnes à participer à un djihad violent. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 30 ans de réclusion. Il doit être présenté au tribunal ce mercredi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Un premier avion transportant du personnel médical du Comité international de la Croix-Rouge est arrivé à Sanaa, capitale du Yémen. C'est ce qu'a annoncé ce mardi dans un tweet le directeur des opérations du CICR. Selon une porte-parole du CICR, un avion cargo chargé d'aide médicale, actuellement en attente à Amman, en Jordanie, devrait très bientôt décoller pour le Yémen. Des précisions avec Michel Joseph.
La situation humanitaire du pays est jugée alarmante après près de 2 semaines de frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre les positions des rebelles chiites. Les réserves de médicaments et d'équipements dans les hôpitaux et cliniques sont en train de diminuer au Yémen, où les populations souffrent en outre de pénuries de carburant et d'eau, alors même que les stocks de nourriture se raréfient. Le CICR avait appelé samedi à une trêve humanitaire de 24 heures. 3 volontaires du Croissant Rouge ont été tués la semaine dernière après avoir été pris pour cible alors qu'ils venaient en aide à des blessés. D'autre part, et selon l'UNICEF, le conflit a fait 100 000 de déplacés pendant que l'on continue de faire courir des risques de maladie aux enfants lorsqu'ils ne sont pas tués ou mutilés.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan est en Iran pour une série de réunions de haut niveau en dépit des tensions bilatérales résultant du conflit en Syrie et au Yémen. Monsieur Erdogan, accompagné d'une délégation turque de haut niveau, s'est entretenu ce mardi avec le président iranien Hassan Rouhani avant de rencontrer le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Selon un média iranien, IRIN, Monsieur Rouhani a déclaré que lui et Monsieur Erdogan ont convenu qu'il devait y avoir un cessez-le-feu immédiat au Yémen. Il a ajouté que l'Iran, la Turquie et d'autres États de la région devrait faciliter la situation pour permettre de stabiliser le Yémen et conduire à un gouvernement inclusif. Et à Moscou, des centaines de personnes ont rendu hommage ce mardi à l'opposant Boris Nemtsov qui a été assassiné en février à quelques mètres du Kremlin. Ses partisans se sont pressés sur l'étroite passerelle piétonne du pont où il est mort pour déposer des fleurs, donc marquant le mémorial de 40 jours selon la tradition orthodoxe. La police a érigé des barricades alors qu'ils affluaient sur les lieux. Une minute de non-silence a été marquée à 11h, heure de Moscou, tandis que de nombreux automobilistes klaxonnaient en marque de respect. Et au troisième jour du deuil national décrété après le massacre de l'université de Garissa dans l'est du pays, plus de 200 étudiants sont descendus dans les rues de Nairobi ce matin.
Soyez au cœur de l'info.